Podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 7 novembre. J'entendais pas beaucoup le thème, mais j'ai entendu la grosse voix qui dit Express. Ah, c'est une belle journée d'automne, une vraie journée d'automne, c'est-à-dire que c'est gris, brun, fret, mouillé. On peut se consoler, en Abitibi, ils sont déjà sous la neige. Fait que, tu sais, c'est eux autres, leur hiver d'un an est commencé.
Ici, c'est... Alors, je vais faire un tour là-bas.
Oui. Mais, tu sais, prévois que, tu sais, des activités pour quelques jours. Tu y vas pas juste une fin de semaine parce que c'est long en maudit y aller. Mais le parc de la Vérendrye est hallucinant. Pour vrai, c'est une des plus belles affaires au Québec. C'est une des plus belles routes à traverser. Il y a bien du monde qui font la route puis qui haïssent ce bout-là. Moi, c'est le bout que j'aime. Moi, j'haïs ça quand je reviens en ville. Rouler là-dedans, pour vrai, c'est hallucinant. Là. Une route sinueuse qui monte, qui descend, puis tu dois croiser au moins 100 lacs, là, tu sais, facilement, là, tu sais, c'est hallucinant, les paysages, puis tous les lacs qu'il y a là. Tu vois ça beaucoup en été, c'est encore plus beau. En hiver, c'est un petit peu redondant, là, tu sais, c'est blanc longtemps, mais ça vaut la peine. À un moment donné, on ira faire une petite trotte, là, quelque chose.
L'été prochain, j'ai pas le choix, c'est le mondial des miniatures.
Ah oui, là-bas? Ah ouais? Ça consiste en quoi, le mondial?
La biennale, en fait.
Hein?
Biennale de miniature qui est en fait c'est peinture en format minuscule.
Ah, c'est bien cool ça. Oui.
Je l'avais manqué l'année passée. Puis je m'étais dit là, l'année prochaine, 2024 normalement.
Dans quelle ville?
Biennale
font
de
ça?
Miniature. Hey, attends, faut que je cherche.
Ah ouais, c'est pas grave.
Ça, j'étais pas prêt.
Ah ben c'est un détail. Il y avait une importante opération policière ce matin dans Hochelaga-Maisonneuve. Dans une école secondaire, il y a un étudiant qui a un élève qui a montré ce qui semble être une arme à quelqu'un d'autre, puis il l'a mis dans un sac à dos, puis c'est tout ce qu'on sait. Est-ce que c'était une vraie arme? Est-ce que c'était un gun à plomb? Est-ce que c'était un jouet, une réplique? On ne sait pas, mais on n'a pas pris de chance, puis on a envoyé la police là. L'école n'a pas été confinée, mais quand même, on n'a pas pris de chance. On a amené un maître chien, tout ça, puis finalement, ils ont rien trouvé. Il n'y a pas eu d'arrestation et ils n'ont pas trouvé aucune arme. Fait que ça s'est réglé tranquillement. Espérons que c'était genre un gun à plomb ou un jouet. Mais un jouet, c'est rare que tu le caches tant que ça dans un sac, mais un gun à plomb, ça tu le caches. Tu le caches pour pour avoir joué avec des guns à plomb quand j'étais plus jeune. C'est pas quelque chose que tu te promènes pas avec ça à l'école. T'es sûr d'avoir t'es sûr de le perdre, c'est certain. Jouais-tu avec ça, toi, des fusées à plomb? T'es-tu amusé avec ça?
Non, j'ai je suis tombé tout de suite dans le vrai calibre.
Ah oui, c'est ça. Ah, on aimait bien ça. On faisait des. On mettait des cacanes pour tirer les cacanes. On se mettait des cibles pour tirer les cibles.
Puis, non, j'ai tout à trouver ça même foncièrement inutile. Je vois pas l'utilité d'un gun à plomb, là.
Ben, ça peut être le fun pour faire une tir de précision. Là, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui ont des armes à feu qui sont pas des chasseurs, je pense à une de nos stakers d'ailleurs qui fait ça, du tir sportif. Ça, moi, je trouve ça vraiment le fun. Là. Mais c'est bon. À l'école, c'est pas la place. Puis les guns à plomb, ça peut être quand même assez dangereux, les fusées à plomb, même si c'est pas des armes à feu comme telles. C'est souvent un ressort ou de la pression d'air, de l'air comprimé dans une bonbonne.
Ouais.
Ça peut être quand même assez dangereux. Je trouve juste que, ben, en tout cas, je sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, les parents donnaient ça aux enfants assez jeunes, puis ils faisaient des niaiseries avec ça. Je me suis tiré par un fusil à plomb, là. Je me suis tiré dessus, là. Ça pèse. Ouais,
j'adore le commentaire de Con qui dit, il a manqué se crever un œil avec ça.
comme dans le film.
Beaucoup pensé, puis le temps des fêtes arrive, hein? Christmas Story.
Oui, Christmas Story. Ah, c'est-tu drôle, ce film-là? Tout le long, tout le monde, il dit qu'il va se crever un œil avec ça, puis finalement, il finit par l'avoir, son fusil à plomb, puis il se crève un œil!
Non, il se crève pas un œil.
Non, mais presque. C'est assez comique. Non, c'est vrai que c'est drôle, ce film-là. Il y a des scènes qui ont vieilli bizarre, là. T'sais, la lampe, là, en forme de jambe humaine, là.
Ben même quand c'est le film weird, est sorti, c'était
c'est
déjà
creepy,
bizarre.
Ça. Il, là, puis il caresse sa lampe, puis c'est comme... aujourd'hui,
mais
c'est
même
pas
quand le film est
ça.
Sorti, c'était déjà creepy.
Imagine aujourd'hui, je pense que ça serait bizarre. Ça serait bizarre.
On peut l'acheter, hein, t'es en vente, cette lampe-là.
Ah ouais?
Si t'en veux une chez vous, là.
Je t'annonce que je veux rien savoir de cette horreur-là. C'est tulette, Colin. Je m'étais fait donner, ou je sais plus où j'avais trouvé ça, un espèce de porte-cendrier que c'était une patte d'orignal, tu sais, puis je trouvais ça déjà creepy, puis drôle, puis ridicule. Fait que j'ai une jambe humaine. Non.
La patte d'orignal, ouais.
Ah, elle existe encore, hein. Elle est en Abitibi, puis écoute, peut-être qu'à l'origine de là, je sais pas. Mais bon, hey, hier j'ai parlé beaucoup de l'office de consultation publique de Montréal, dont les membres s'amusent à nous voler nos dollars, en fait les dollars des Montréalais, et se gâter avec, hein, ils s'en vont en... Attends, faut que je fasse comme il faut. En mission. Je fais comme Capitaine Patnaud. Et puis, ils s'en vont en mission qui, finalement, ça ressemble plus à des deux semaines de vacances, faire le tour de l'Europe avec leur mère, avec leur fils. Il y en a un qui est allé, je pense, c'est à Londres, pour aller assister à une importante conférence sur YouTube. Il y en a un qui s'est acheté des écouteurs à 900$, un des membres de cet office-là. Quand tu travailles à l'Office de consultation publique de Montréal, ça te sert à rien des écouteurs à 900$. Moi, je mixe du son, puis ça me sert à rien non plus des écouteurs à 900$. Tu sais, on est allé voir avec Suburban hier des écouteurs à 900$. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment juste probablement pour des millionnaires qui savent pas quoi faire de leur argent, puis ils veulent juste être sûrs d'avoir ce qu'il y a de plus cher. C'est un gadget qui sert à avoir quelque chose de cher. C'est pour vrai, là.
Moi, je t'annonce que je serais pas capable de voir la différence, là.
Mais non, personne verrait la différence, là. Je veux dire, à 400$, là. 400$, t'as des écouteurs de référence qui te donnent toutes les fréquences, puis tout ça, puis tout ce que tu veux pour travailler. Puis ça fait la job en masse. Mais là, on parle pas de quelqu'un qui travaille du son, là. On parle de quelqu'un qui est supposé travailler à un office dont le but est de consulter la population montréalaise sur des projets montréalais. Mais ils sont tout le temps rendus à l'étranger. Ils s'en vont en avion en première classe. Ils se payent des soupers d'huîtres à 345$. Et puis, tu sais, c'est avec des écouteurs à 900$, tu peux écouter du Mariah Carey. Non! Tu peux pas. Parce que quand Mariah Carey fait ses notes épouvantables, ses ultrasons dégueulasses, il faut que tu les enlèves super rapidement. Puis tu peux les briser. Fait que j'aime mieux faire ça avec mes petits Sennheiser à 200$ qu'avec des écouteurs à 900$. Pour vrai, si on me donnait des écouteurs à 900$, je les vendrais puis je m'achèterais une guitare. ou un char.
Je fais un paiement.
Je fais un gros paiement sur mon char, je baisserais ma carte de crédit. Hein?
Je m'achèterais une vraie console de son.
Ah, ouais, oui, c'est bon ça. Oui. Écoute, à 500$, c'est quelque chose de vraiment pas pire. Ça s'est beaucoup démocratisé, d'ailleurs, la technologie. La qualité est beaucoup plus accessible qu'avant. Avant, t'avais soit des affaires à 3 000-4 000$ ou de la merde à 100$, puis ça marchait pas. Donc là, la ministre des Affaires a écouté une nouvelle, parce que c'est le même que ça marche, hein. C'est comme ça que les politiciens apprennent plus sur la mauvaise gestion de leurs subalternes. Donc, la ministre des Affaires municipales se dit troublée par les nombreuses dépenses. Je pense que c'est pas des gros secrets, là. Moi, je pense qu'il y a de l'abus de fonds publics. Je pense que c'est quelque chose qui est récurrent et très courant dans l'administration publique. C'est juste que quand ça sort d'un journal, c'est gênant.
Quand il est pas dans le bureau, puis tu poses la question, ah non, il est à Londres. T'sais, déjà là, il y a comme...
Oui, puis qu'est-ce qu'il fait à Londres? Ah, il y avait une conférence. OK, c'est quand la conférence? Ah, oh, c'était hier. Puis pourquoi il est encore à Londres? Bon, il a décidé de tirer ça à 3 semaines. Parce qu'il a fait venir son fils, puis là, ben, il visite. Ah, puis là, ben, la ministre dit qu'elle envisage de modifier les lois qui régissent l'organisme. Il y en a qui réclament sa démission. Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, mon grand chum. c'est pas vrai que c'est mon grand chum, mais c'est parce qu'il y a une photo de moi puis lui sur Facebook qui a laissé croire ça. Et puis, mais pour vrai, j'avais quand même une bonne relation avec quand j'étais à la radio, parce que si un invité me faisait défaut pour une entrevue dans l'après-midi puis j'avais un trou, je l'appelais. Hey, Denis, après-midi, j'ai entendu parler de quelque chose. Il aimait tellement ça, passer à la radio et à la TV, que c'était tout le temps oui. Tu l'appelais sur son cellulaire, puis oui, s'il y a le temps, il va être là. Là, fait que... Mais Denis Coderre, bon, il demande la démission. Moi, je demande pas la démission de la présidente. Moi, je veux qu'elle passe en cours. Pourquoi ils peuvent voler de l'argent à ces gens-là puis s'en tirer avec au pire des pires? Perdre leur job. Moi, si je vole pour 30 000 piastres,
c'est une erreur de jugement.
Hein?
C'est juste une erreur de jugement.
Oui, c'est ça.
Il y a rien de criminel là.
Pendant 15 ans, c'est 15 ans d'erreur de jugement. Parce que ça fait des années que c'est comme ça. Hein? C'est pas nouveau. Ça fait des années qu'ils se vautrent dans le luxe avec l'argent des contribuables qui ont de la misère à payer leur loyer. Là, ils se roulent dans l'argent. Ils se payent des vacances de millionnaires. Tu sais, je veux dire, il y a un cas là. Où des représentants étaient partis à l'étranger, puis pendant je sais pas combien de temps, là, plusieurs jours, puis ils sont revenus, puis couple de semaines après, ils repartent pour 2 semaines à une autre place. Oh, au Brésil! En mission. Des hosties de mission, là. Tu sais, j'ai déjà travaillé pour un OSBL, puis la direction s'en allait souvent aussi en mission. En mission. Pour aller rien calisser, puis avec l'argent du public. Ça m'écœure, ces affaires-là. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais de conséquences. La pire conséquence, ça serait qu'elle démissionne. Moi, si je vole de l'argent, là, à coup de dizaines de milliers de dollars, là, c'est en prison que je vais aller, là. Je vais être traduit en justice, là. C'est un vol, Non, quand tu travailles dans la fonction publique, puis tu voles de cette façon-là, tu sais, c'est
un manque de jugement.
C'est ça, faut que tu voles comme un riche. Il faut que tu voles comme l'élite vole. Si tu voles à des gros montants, puis que c'est dans que tu voles de l'argent en passant par des abus de budget, des affaires comme ça, ben on va te récompenser en te dispensant d'accusations de vol, puis ça va juste être, bon, ben là, tu devrais démissionner de ta job. Puis d'ailleurs, il y a je le disais hier, je vais juste rappeler ça, il y a un des membres de la commission de l'Office de consultation publique de Montréal qui avait déjà été reconnu coupable dans les années 90 d'avoir volé pour à peu près 34 000 piastres d'argent du gouvernement, là, d'argent des contribuables. Puis eux autres, ben, ils l'ont engagé.
Ça, c'était avant.
Ouais, mais ben, non seulement c'était avant, mais en fait, ça fitait dans dans les critères d'emploi, là. Est-ce que tu sais abuser des fonds publics puis voler de l'argent des contribuables pour aller te vautrer dans le luxe? Oui, j'ai été reconnu coupable dans les années 90. Ah ben, on t'engage à l'Office de consultation publique de Montréal. Tu as toutes les qualifications requises. Tu aimes le luxe? Oui. Tu aimes pas payer pour le luxe? Non. T'aimes mieux garder ton gros salaire pour toi puis l'économiser pour pouvoir t'acheter un beau manoir pendant que tu vis ton luxe avec l'argent des contribuables? Oui. Tu es engagé à l'Office de consultation publique de Montréal.
Mais, bref, à part façon de parler, Sébastien dans le chat qui parle, c'est du principe facile où tout dépend. Il est important de toujours tout dépenser le budget pour te voir le budget de l'année suivante reconduit, puisque tu avais besoin de cet argent-là.
Oui, c'est sûr. Si ton budget est 80 000 et tu en dépenses juste 60 000, ils vont dire, ah, mais t'es capable de t'organiser que 60 000, ton budget à ça, c'est 60 000. Fait qu'il dépense jusqu'à la dernière scène. Mais là, je sais pas si c'est ce cas-là. C'était pas qu'il y avait un budget, il pigeait direct dans l'argent de la ville, là. une carte de crédit, puis m'envoie faire ça, puis écoute, il se faisait des cadeaux, il faisait n'importe quoi. Je suis pas sûr que c'était un budget préétabli, mais en tout cas, on dit que en tout cas, Valérie Plante, la mairesse, dont le bras droit était la présidente de cet organisme-là, honteux, elle dit que la vérificatrice générale de Montréal a reçu le mandat d'examiner leurs pratiques. Et la vérificatrice générale, la ministre des Affaires municipales, dit « Je m'engage à analyser rapidement les recommandations du rapport de la vérificatrice générale et je n'hésiterai pas à faire les modifications législatives nécessaires. » Fait qu'autrement dit, on va changer la loi pour que ça arrive moins. Et puis, ceux qui ont volé l'argent des contribuables qui ont de la misère à payer leur loyer, ben il n'y aura pas de conséquences. Ils vont avoir vécu comme des millionnaires, fait des vacances dans des hôtels de pacha, mangé de la haute cuisine dans les meilleurs restaurants du monde avec notre argent totalement impunément. Parce que, comme disaient les cow-boys fringants, on accorde un break seulement aux fraudeurs intelligents. Il y avait un témoignage de Donald Trump dans son super procès à New York qui pourrait se conclure avec la liquidation de ses actifs à New York et l'empêcher de faire des affaires pour toujours dans la métropole ou la mégapole ou peu importe. Il était là depuis le début dans le procès, puis ça a pris des gag orders pour y fermer à gueule, parce que lui, ce qu'il fait, là, il fait campagne dans ce procès-là, c'est ça qu'il fait. Puis d'ailleurs, il fait pas la différence entre une salle d'audience puis un rally, là, un rassemblement politique. Tu sais, comme quand on le voit là dans des stades là devant des dizaines de milliers de personnes dire des vulgarités, se moquer de ses adversaires, se moquer des personnes handicapées, I don't know what I'm doing, puis rire des gens, puis faire un show de propos orduriers, puis sous les acclamations de la plèbe américaine, dans ses spécimens les plus stupides, il fait pas la différence entre ça puis en cours, puis il a fallu que ça le fasse rappeler un petit peu, hein, parce que il s'est encore attaqué à la procureure de l'État de New York, la procureure générale, Laetitia James, et au juge Arthur Engoron. Puis, c'est ce qu'il fait aussi dans ses points de presse. C'est pour ça que ça a pris un gag order, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Sa seule défense, lui, c'est de dire que c'est une chasse aux sorcières, puis vous êtes tous contre moi, puis c'est un complot pour me faire perdre les élections. Autrement dit, il dit les mêmes affaires dans les points de presse improvisés à la sortie de la salle d'audience que dans ses rallies politiques où il endoctrine les membres de la secte MAGA. Et puis, en cours, ça marche pas de même. Puis, il comprend pas, puis il faut y dire. Fait qu'il dit, c'est une chose terrible que vous avez faite. Il dit ça au juge Engoron. Il dit, vous savez rien de moi. Et je pense qu'il en sait pas mal.
Sinon, il serait pas là.
Il en sait assez pour être capable de prouver puis d'avoir découvert toutes les malversations qu'il faisait quand il changeait quand il surestimait ses avoirs ou ben il les sous-estimait dépendamment s'il avait besoin d'un prêt ou ben un deal d'assurance ou des gugus de même. Après ça, il parlait de Laetitia James qui était là d'ailleurs, qui est pas toujours là, mais là était là. Il dit vous croyez ce valet politique, soit les gens sont très stupides, soit il y a une fraude. Les gens sont stupides, mais c'est pas ceux que tu traites de stupides. Ceux qui sont stupides, c'est ceux qui continuent de t'appuyer et qui croient tes mensonges éhontés. Tu sais, c'est clair, ça paraît, là, tu sais, on le sait, là. Les gens qui sont pas endoctrinés et fanatiques voient clair, là, le voient. Sauf que malheureusement, il y a une grosse partie de la population qui voit pas clair. Et qui est fanatique de Donald Trump. Les Américains sont des fanatiques par définition. Fanatiques des armes à feu, fanatiques de la religion, fanatiques de leurs politiciens, fanatiques de leurs vedettes. C'est fou, là. Ils ont pas de demi-mesure, là. Puis, tu sais, je sais que je généralise, mais je suis obligé. Puis, de toute façon, il y a une façon de généraliser qui s'appelle les élections, là. Et quand tu regardes les politiciens qui se ramassent au pouvoir, tu regardes les Marjorie Taylor Greene qui dit que les feux de forêt sont causés par des lasers juifs de l'espace. Ou ben, tu sais, ça pour vrai, là, elle en dit tellement de la merde, là. Sur la page Facebook du crachoir, j'ai publié récemment quelqu'un qui fait juste une espèce de liste des affaires, des pires horreurs qu'elle a dit. C'est épouvantable. On dirait le discours d'un fou dans le métro qui s'astine avec les briques du mur, là, tu sais, là. On dirait quelqu'un de débile complètement, là. Puis ces gens-là se ramassent au pouvoir, se ramassent à des positions importantes. Écoute, le pire de la gang qui s'appelle Donald Trump a été président des États-Unis et pourrait le redevenir. C'est épouvantable. Mais en tout cas, dans le cas de... Parce que, évidemment, le juge, il donne raison à Laetitia James sur bien des affaires, notamment que il a estimé, en fait, il a découvert que ses deux fils et lui avaient gonflé frauduleusement les actifs de la Trump Organization pour avoir des prêts plus avantageux auprès des banques, puis des conditions d'assurance plus favorables de 2011 à 2021. C'est prouvé, ça. Il a trouvé les preuves. T'sais, c'est même pas une théorie, c'est un fait, là.
Tu m'arrêtes si je me trompe, Frank, mais si je ne m'abuse, ça, c'est juste pour l'État de New York.
Juste pour l'État de New York. C'est sa juridiction. Il a aussi ordonné la liquidation des sociétés qui gèrent les tours emblématiques de Trump, là, la Trump Tower, le 40 Wall Street. Mais c'est ça, c'est allé en appel, puis c'est là qu'on est, là, tu sais. Fait qu'après avoir prêté serment, avec la main levée, tout le kit très théâtral, Donald Trump, écoute, c'est un petit peu tiré dans le pied, comme il fait toujours. Il se tire dans le pied aux yeux de la loi, puis aux yeux des faits, mais c'est toujours payant politiquement pour lui, parce que pour ses adeptes, parce que je pense qu'on peut parler d'adeptes, là, c'est vraiment une secte, il a toujours raison, puis plus on démontre qu'il a tort, plus il a raison, parce que ça vient juste conforter pour eux autres la thèse que tout le monde complote contre leur pauvre petit Donald.
C'est Twitch la Switch qui mentionnait que selon les derniers sondages, je ne l'ai pas vérifié, mais s'il est pour perdre à New York, les swing states seraient en train de migrer vers Biden.
Non, c'est pas ça que j'ai vu. On va en reparler, tu vas voir.
OK.
Donald Trump, c'était ça. Il s'était un petit peu tiré dans le pied parce que, tu sais, un peu une partie de sa défense, c'était comme, genre, même ça, moi, je regarde pas ça, ces affaires-là. C'est du monde qui gère ça pour moi. Puis, tu sais, un peu comme il a fait avec l'avocat, son ancien avocat qui est allé donner un pot de vin à Stormy Daniels pour qu'elle ferme sa gueule sur l'adultère qui est. que Trump avait commis avec elle, lui fait semblant de pas être au courant, puis c'est lui qui mange la marde. C'est un peu comme les trafiquants de drogue qui engagent des ados, là. Puis quand les ados se font pogner, ben ils savent pas c'est qui le vrai coupable, puis tu sais, ils peuvent pas rien dire, puis ils ont presque pas d'informations. Puis c'est difficile pour la police de remonter au vrai fournisseur, à la personne qui importe la drogue puis qui engage ces ados-là pour aller vendre à leur place. Fait que c'est un peu la même... C'est un mob boss, là. C'est vraiment ça, là. Donald Trump, c'est un mob boss. C'est comme un chef de crime organisé, puis il fonctionne de la même façon. Mais là, il est allé dire que les documents sur l'évaluation de ses propriétés, il dit, je les regardais, je les voyais, puis des fois, j'avais des suggestions. Ah! Fait que t'es au courant! Tu fais partie de la GAMIC. Non seulement tu savais que c'était gonflé, mais tu savais comment, puis tu voyais de combien, puis t'as eu les documents entre tes mains. Fait que c'est un petit peu tiré sur le pied avec ça. Tiré dans le pied, dis-je bien, plutôt dis-je mal. Puis ce qui est comique, puis ça pour vrai, c'est le moment le plus fun de toute l'interaction. C'est que pour se défendre du fait qu'il était un peu... obvious, déconnecté, qui se rendait pas compte de tout ce qui se passait. Il dit, ah, ben, écoutez, j'étais trop occupé à la Maison Blanche, là, de la Chine, la Russie, puis la sécurité du pays, puis tu sais, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Pis ça, c'est drôle, parce que l'avocat qui représente la procureure de New York, il dit, excuse, c'est parce que t'étais pas président dans ce temps-là. On. Fait que sa défense de dire, oh, j'étais préoccupé par ma charge présidentielle, la Chine, puis tout ça, China, China. Non, t'étais même pas président, maudit cave. Mais tu sais, il commence à montrer des petits signes de sénilité dans notre chambre. Ça fait plusieurs fois qu'il dit des affaires qui ont pas d'allure. Il y a à plusieurs reprises, au moins deux reprises dans des discours dans ses rallyes, il dit tout le monde pensait que Barack Obama pouvait pas être battu, puis cette élection-là pouvait pas être gagnée. Ben Colin, on l'a battu Barack, puis t'as peu là, t'as jamais été contre Barack, t'étais contre Hillary Clinton. Oh. Tu sais, c'est
comme un chevreuil sur l'autoroute.
Non, mais faut-tu être déconnecté pour penser ça, là? C'est une grosse partie de sa vie, là. Je veux dire, c'est sa campagne électorale qui l'a porté au pouvoir, puis il se rappelle plus c'était contre qui!
Ben, c'est parce qu'il met tout dans le même clan.
Ben oui, mais crime, c'est pas un signe de présence d'esprit, là, de confondre une femme blanche qui était... l'ex d'un autre président avec Barack Obama. En fait, tu peux pas confondre Barack Obama avec n'importe qui. Puis tu peux pas confondre Hillary Clinton non plus. Tu sais, je veux dire, crime, t'as fait un débat contre elle, t'as fait campagne contre elle, t'as gagné les élections, t'es devenu président. Puis c'est comme toute partie dans sa tête. Obama, Obama, Obama. Il dit Obama, le colon. Fait que lui, son souvenir est tellement diffus puis mélangé que là. Colin, moi, j'ai passé 13 ans avec la même femme dans ma vie, là. Mais c'est comme si je me rappelais plus de son nom. C'est 13 ans de ma vie. Tu sais, c'est comme si j'oubliais le nom de ma mère. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être sain d'esprit puis oublier un détail comme ça, là. C'est pas un détail. Tu sais, fait le monsieur, il en perd, là. Tu sais, il a plus toutes les facultés qu'il avait en 2016, là. Mais ça, c'est pas grave. Parce que plus qu'il dit des honneries, plus qu'on trouve ça. Ben oui, c'est vrai, lock her up. Lock her up, Barack Obama! Ça marche pas! C'est n'importe quoi. Fait que là, ben, c'est ça. Il est allé sortir que ses priorités, c'était la Chine puis la Russie puis sa job de président, alors qu'il était même pas président au moment des événements, oui.
Et pourtant, c'est un des présidents qui a plus passé de temps sur un green de golf versus du temps dans le bureau ovale.
Oui, c'est vrai. Puis il allait tricher sur son green de golf. Puis d'ailleurs, il y a un paquet de témoignages qui confirment que quand il joue au golf, il passe son temps à fucking tricher. Il s'enlève des coups, donne des coups de pied sur la balle. C'est un tricheur, c'est un crosseur. Tout le monde le voit, sauf les membres de sa secte. Mais c'est ça, une secte. Là. Le gourou est infaillible. Il n'a pas de défaut. Quand tu vois des vox pop là, dans les rassemblements de MAGA, là, c'est qu'est-ce que vous aimez de Donald Trump? Ah, tout! Ouais, peux-tu me nommer une politique que tu as particulièrement aimée? Ah non, tout! Tout. Ouais, si je te dis telle affaire, tu serais-tu d'accord avec ça? Je dis, ben non, ça n'a pas d'allure. C'est Trump qui a dit ça. Ah, ben, il doit avoir une raison, parce qu'il se trompe jamais. Puis, qu'est-ce que t'aimes de Trump, de sa personnalité? Ben, lui, au moins, il nous ment pas, puis il nous dit les vraies affaires. Tabarnak, c'est 18 mensonges par jour pendant sa présidence. Ça a été répertorié, ça a été compté, Caroline. En tout cas, puis il a à plusieurs reprises pour lui rappeler qu'il n'était pas dans un rallye politique, le juge a été obligé, en fait, le sommet de s'en tenir à des réponses brèves plutôt que de se perdre dans son discours sur la chasse aux sorcières, guerre politique, complot contre moi. Parce que à toutes les fois qu'il répondait à une question, il repartait, puis ouais, puis c'est ça, mais ça, c'est à cause que tu sais, c'est une vendetta politique, puis c'est un complot pour m'empêcher, puis pour nuire à ma campagne, puis c'est une chasse aux sorcières, puis je suis le président le plus persécuté qui a jamais existé, puis pauvre moi! Puis il revenait tout le temps à ça, c'est parce qu'il fait pas la différence entre une salle d'audience puis un rallye politique. Dès qu'il a la chance, dès qu'on ouvre son micro, il repasse sur sa propagande comme quoi tout le monde complote contre lui. Puis le pire, c'est que ça fonctionne. Écoute le sondage. C'est là que je vais répondre à ta question sur les swing states, OK? Il y a un sondage qui nous montre que non seulement Donald Trump a une avance de 4 à 10 points dans les swing states sur Biden, mais on montre aussi que dans ce sondage-là, on voit que les électeurs font beaucoup plus confiance à Donald Trump qu'à Biden pour gérer l'économie. Crime, il est en train de passer en cours parce qu'il crosse les chiffres. Mais non, il trippe dessus pareil. À un an de l'élection présidentielle de novembre 2024, le président démocrate Joe Biden tire de l'arrière contre le républicain Donald Trump dans 5 des 6 États qui ont déterminé le vainqueur en 2020, c'est-à-dire les swing states, les fameux swing states. Quand on regarde les chiffres, c'est parce que là, il est en cours, là, puis il est en montée, là, pendant qu'il passe en cours. Ça montre que, malgré les 91 chefs d'accusation qui pèsent contre lui dans des affaires pénales, il continue à monter dans les sondages. Ça ne lui nuit pas du tout. Puis même s'il était reconnu coupable, même s'il perd, il a perdu. Ah, écoute, il a été reconnu coupable, en tout cas, reconnu responsable du viol. Il a violé une femme, puis ses chiffres ont monté le lendemain matin, là. OK? C'est comme ça qu'ils sont, là. Ce pays-là est brisé. La population n'a plus de repères moraux nulle part. Ils sont juste en adoration devant ce gourou-là, qui est un potentat raté, qui essaye une deuxième chance, qui s'essaye une deuxième fois pour essayer d'établir un régime autoritaire. Parce que s'il gagne, je te l'annonce, là, ça va être un régime autoritaire à la Vladimir Poutine. Là. C'est là qu'il s'enligne. Il parle même de mettre l'armée dans les rues, pis t'sais, de toutes sortes de mesures puis de lois répressives qui pour vrai qui se définissent par un régime pas totalitaire mais autoritaire à la sauce Poutine, tu sais, c'est un mauvais jeu de mots. La seule affaire qui pourrait faire mal, ce qu'on dit là, qui pourrait lui faire perdre 6 points de pourcentage dans les swing states alors qu'il mène toujours par de 4 à 10 points là. Ce qui pourrait faire perdre environ 6 points, c'est s'il était reconnu coupable dans l'affaire du complot post-électoral à Washington, puis t'es en Géorgie, là, ou si on démontre qu'il a vraiment tenté de frauder l'élection puis de tricher aux élections. Normalement, ça devrait être assez facile à démontrer, je pense, parce que les preuves, tu sais, puis s'accumulent et les témoins, en fait, ses complices qui finissent par accepter des deals pour témoigner contre lui. En tout cas, la défense, ça va être difficile en Géorgie. Mais ça, s'il perd ça, on dit que ça va lui faire perdre environ 6 points. Mais crime, il y a des places, il y a des swing states où il est en avance de 10 points, là. Au Nevada, il est en avance de 10 points. En Géorgie, là où le procès va avoir lieu, là, il est en avance de 6 points. C'est pas grand-chose. S'il perd juste 6 points à cause s'il est reconnu coupable. En Arizona, 5. Michigan, 5. Pennsylvanie, 4. Puis au Wisconsin, c'est le seul swing state qui est en faveur de Biden par un maigre 2 points. Fait que ça regarde mal en maudit. Il y a des bonnes chances qu'il puisse se retrouver au pouvoir. Les Américains, ce sont des caves, OK? C'est bien plate à dire, là, mais c'est un peuple de caves.
Certains de ses projets qu'il avait mis en branle lors de sa présidence continuent à faire mal. Hein? Le fameux mur, il continue à être construit. Joe Biden a tenté d'ailleurs d'arrêter les frais. Et pour ça, il a fallu qu'il s'adresse au Congrès et il n'a pas été en mesure de convaincre le Congrès, ce qui fait que la construction du mur entamée pourrait être terminée sous une nouvelle présidence.
Ouais, puis c'est pas le mur qu'il avait promis aussi, là, c'est une clôture. Là. C'est vrai, Twitch la Switch, c'est pour le sondage, c'est pas le procès en Géorgie, en fait, t'as raison. C'est le procès pour... du 6 janvier, là, l'espèce d'insurrection, là, où c'est les membres de sa secte les plus enragés ont investi, envahi, pris d'assaut le Capitole. Fait que, écoute, ça regarde mal en maudit. Notre voisin, la superpuissance mondiale, est en voie de devenir une autocratie. Puis ça peut pas être bon pour nous ni pour l'ensemble du monde libre. Les Américains qui disent triper sur la liberté, ben écoute, c'est en train de leur jouer des tours. Là. Puis je suis pas sûr qu'ils comprennent non plus c'est quoi la liberté. En fait, les Américains vivent dans une une réalité alternative. Beaucoup pensent qu'ils sont les seuls à avoir ça, la liberté. Ils pensent qu'ils sont l'exemple de la liberté. Ils pensent que la liberté, ils sont le premier pays libre, puis qui ont inventé ça, puis qui sont les meilleurs là-dedans. Puis ils sont même pas dans le top 15 des pays les plus libres du monde. Puis leur modèle, ils l'ont appris, leur modèle de république, c'est une république, hein, les États-Unis, il est basé sur le modèle de la France, où les pères fondateurs sont allés s'éduquer, puis les pères fondateurs doivent se retourner dans leur tombe en train s'ils voyaient ce que les États-Unis sont en train de devenir, ils repartiraient une guerre civile, mais pas pour les mêmes raisons que ceux qui parlent de guerre civile voudraient en partir une ces temps-ci. Ouais, c'est ça, ils pourraient carrément mettre la statue de la liberté aux poubelles parce que elle ne représente plus grand-chose. Surtout que, tu sais, les supposément tripeux de la liberté, dès qu'ils parlent de nouveaux projets de loi puis de leur Amérique idéale, c'est une Amérique moins libre où on opprime les minorités, où on opprime, on discrimine les gens sur leur orientation sexuelle, sur leur identité, sur la race, sur tout ce que tu peux discriminer quelqu'un. C'est une gang de redneck, puis malheureusement, c'est pas une minorité. C'est pour ça que je dis que les Américains, c'est des caves. Il y en a des brillants, ben oui, il y a plein d'Américains que j'admire, puis il y a des États où c'est démocrate et progressiste, tout ça. Sauf que, Colin, tout porte à croire que au moins la moitié, sinon la majorité des Américains, sont pas mal caves, pas très éduqués, avec des valeurs morales tout croche, issues d'un endoctrinement depuis la plus tendre enfance, un patriotisme démesuré qui n'est pas fondé sur des faits ou des valeurs qui ont de l'allure. Parce que
la seule chose positive de ça, c'est que ça va tellement à une grande vitesse qu'on va peut-être, de notre vivant, assister à l'effondrement de l'Empire.
Ouais, sauf que l'effondrement de l'Empire va nous faire mal en maudit à nous autres.
Ah oui.
Puis ça va changer l'équilibre mondial. Puis là, on aura un nouvel ordre mondial. OK, on va faire une petite pause là-dessus. Sur ces propos apocalyptiques.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Hey, t'as un sujet, toi, hein?
Ben, un sujet.
Ah, tu m'as parlé, tu m'as surpris, en tout cas, avec ton histoire de...
Mon histoire de botanique?
Ton histoire marrante!
Ben, j'avais... OK,
Attelez-vous,
la façon que... Comment t'as dit?
Attelez-vous, là, c'est pas un sujet qui vous est familier.
Pas du tout. Mais c'est le concept marronnier, et non pas l'arbre. Ah. Le marronnier, c'est un concept qui est, selon certaines personnes, très répandu dans le monde des médias. Quand j'en ai parlé à Frank il a flatliné cérébralement parce qu'il n'avait jamais entendu parler. Puis le gars, il a 15 ans de métier. C'est peut-être pas si connu que ça. Moi, je suis tombé là-dessus parce que ça m'a fait sourire. Puis en même temps, je cherchais... un peu comment amener certains sujets que moi je voulais aborder aujourd'hui. Puis le marronnier, dans le fond, ben c'est un arbre à fruits qui, année après année, à intervalles terriblement réguliers, va donner ses fruits toujours un peu différents du précédent.
Des marrons!
Et marrons! Et ben c'est ça, mon marronnier d'aujourd'hui, c'est pourquoi pas faire comme tout le monde. Parler aux gens d'adapter leurs conditions, leur façon de conduire sur la route, telle que rappelée encore aujourd'hui par la Sûreté du Québec dans le soleil.
Est-ce que pas que j'en fasse un accident et on finisse dans les marronniers?
Ben écoute, non, les marronniers, c'était un bref aparté, juste pour dire que et malheureusement, année après année, on se ramasse toujours avec les mêmes nouvelles au même moment tout le temps. Puis là, ben écoute, là, présentement, c'est les pneus d'hiver.
Je l'ai fait subir à Martin l'autre fois quand on a eu de la neige. J'ai dit, ah, là, vous allez entendre dans tous les bulletins de météo, « Dame Nature a revêtu son manteau blanc! » Puis ça a donné une coche mémorable de un éditorial de Martin contre l'hiver qui est mémorable.
Ah oui, c'est vrai. Mais, c'est ça. Donc, écoutez, soyez pas surpris, particulièrement les gens de Québec, là, parce que nous, on s'est réveillés avec un manteau blanc sur nos véhicules automobiles ce matin. Donc, c'est l'avertissement. Avertissement est servi à l'approche de l'hiver, soit une période de l'année où il est important d'adapter la conduite automobile. Hey, c'est les mêmes textes.
Ah, il faut copier-coller.
Pastés année après année. Mais quand même, je me demande jusqu'à quel point c'est important de faire des rappels. Puis je pense à Sébastien qui est dans le chat qui, de par son emploi, est-ce que les gens oublient à ce point-là sur la route? Moi, je l'oublie pas. Moi, mon rendez-vous pour les pneus, il est pris. Je veux dire, je vois de la neige, j'accélère pas, je ralentis. Est-ce que les gens sont à ce point-là comme inconscients? Ton sourire me fait peur.
Non, c'est que après ça, je vais te faire part d'un petit phénomène, tu sais, justement, que dans le métier par rapport à ça.
Ben, vas-y.
OK. Ben, je vais le faire tout de suite parce qu'en même temps, j'étais en train de faire ce que Martin appelle de la cuisine, mais en fait, c'est je suis en train de naviguer sur un autre ordinateur, celui qui me montre le chat de Twitch. Parce que je vais peut-être, si j'ai le temps, mettre ce texte-là que j'ai écrit à propos des pneus d'hiver. Mais il y a un phénomène aussi, c'est que, regarde, quand tu travailles dans les médias, ton combat quotidien, c'est de trouver, quand tu es quotidiennement dans les médias, quand tu fais une émission comme le Crachoir une fois par semaine, c'est pas trop dur de trouver des sujets, t'as la barre du choix, mais quand tu fais de l'actualité à tous les jours, il faut jamais que tu manques de sujet, parce qu'il faut que tu aies de quoi à dire dans ton émission, puis que tu sois capable de le rendre intéressant. Et des fois, ben c'est slow news, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, ou en fait, il n'y a pas beaucoup de nouvelles intéressantes. Tu sais, quand vous lisez le journal, puis il est plate. Quand vous écoutez une nouvelle, puis il dit « Colin, il me semble qu'on s'en calisse de toutes ces affaires-là », c'est ce qu'on appelle « slow news day ». Ça arrive beaucoup l'été, parce qu'il n'y a pas de politique. Fait que déjà là, ça enlève un tiers, si c'est pas la moitié des nouvelles. Fait que tu te retrouves un peu orphelin de sujets. Fait que quand t'as l'occasion de ramener un sujet comme les conditions routières, comme la Saint-Valentin, comme les pneus d'hiver, ou ben juste les clichés sur admettons au changement de saison, canicule, là tu parles de canicule pendant 3 jours, là tu t'en parles, puis hydratez-vous. Tout le monde sait qu'il faut boire de l'eau quand on a soif. Mais les journalistes, les membres de médias, ben écoute, ils vont nous le rappeler. N'oubliez pas de vous hydrater, puis on le sait tout ça. On sait tous qu'il faut mettre des pneus d'hiver l'hiver. Ça peut être bon de rappeler la date, parce que ça se peut qu'on l'oublie. Mais n'empêche que c'est des choses qu'on sait, tu sais. Mais on profite de l'occasion de ce sujet bonus-là qui tombe dans les mains. Ça fait des bons open de show, c'est-à-dire quand tu... Regarde tantôt qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai parti le show. Je suis parti sur un cliché. Bon, un cliché, tu sais, pas un cliché universel, là, parce que les gens disent « Ah, belle journée, une belle température automnale! » Moi, j'en ai juste profité pour chialer que j'haïs l'automne. Fait que je me suis amusé à décrire la journée comme étant brune griffrette mouillée. Mais c'est un peu un marronnier d'automne, là, tu sais. C'est comme un sujet qui tombe sur la table, puis tu le fais. C'est sûr qu'on parlera. Je ne ferai pas de sujet sur les pneus d'hiver, puis je ferai pas de sujet de parce que personnellement, ça me fait chier quand. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la paresse, là, des fois, de prendre ces sujets-là clichés, puis de les faire de la même façon à chaque année, puis de faire des reportages. Pour vrai, ils pourraient prendre un reportage sur les pneus d'hiver d'il y a 5 ans, puis le mettre cette année, puis ça serait pareil. Là.
Ben, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça qui se passe, d'ailleurs. Ben, je pense qu'ils le refont, mais ils disent les mêmes affaires, tu sais, puis ils montrent à peu près les mêmes images. Des fois, c'est le même stock shot, là, les mêmes images dans les reportages TV. Moi, je trouve ça plate, fait que j'essaie de pas faire ça. Mais c'est une tentation de tous ceux qui travaillent dans les médias. De, ah bon, si on a des nouvelles aujourd'hui, ben là, ça va être les pneus d'hiver. Ah oui, cool, on peut parler de ça. Tu sais, quand tu prépares ton show, quand tu fais un meeting de prod, tu vas faire ces sujets-là souvent. Surtout quand t'es dans les médias traditionnels. Puis en même temps, ça fait un peu partie de ton devoir d'informer le public, de leur rappeler ces affaires-là. Sauf que des fois, ça tombe un peu paternaliste, là, tu sais. Oubliez pas de... Moi, c'est cette partie-là, là. N'oubliez pas d'adapter votre conduite aux conditions routières. Ça, cette partie-là, je la dis jamais. Mais je vais peut-être avertir le monde. Oh, attention, c'est la date limite, là, demain pour les pneus. Fait que si vous voulez pas pogner une étiquette, ben, moi, j'essaie de rendre service aux auditeurs en leur disant ça. Mais je vais pas leur dire, n'oubliez pas d'adapter. Vous savez tout chauffer, là, puis je suis pas meilleur que vous autres, puis tout le monde sait que quand il neige, ça glisse plus que quand il neige pas. Moi, c'est cette partie-là qui infantilise l'auditoire, je la fais pas, puis quand je l'entends, ça m'horripile.
Ben, pour continuer là-dessus, tant qu'à être dans le paternalisme, écoute, bientôt, ça va être les parties des fêtes.
Tu vas me parler de modération, mon esti.
Ben. Parce que, effectivement, bon, le temps des fêtes appelle à la réjouissance, aux parties de bureau et inévitablement, hein, pour certains, à la consommation d'alcool. Et, ben, malheureusement, on en a une à Québec qui est... Boy, je retrouve même plus l'article.
OK, on a un cas dégueulasse d'alcool au volant.
Ouais, ben, une dame hier qui s'est... fait prendre dans les deux sens, le pont Pierre-Laporte, pont de Québec sur le boulevard Champlain, en état d'ébriété, 3 fois la limite permise, en compagnie de son enfant, à 16h30 l'après-midi.
Ben voyons donc, il y a plein de monde sur les routes. Tu sais, c'est un cave là, qui se tue tout seul là, sur l'autoroute parce qu'il est ben sous en pleine nuit, pour vrai, là, m'en sac. Aucune pitié. Pas je m'en, ouais, pas, pas, pas je me dis go, faites-le, là, mais tu sais, c'est irresponsable, c'est grave, oui. Mais là, avec un enfant dans le char, en plein jour, dans un secteur animé, Colin, ça mérite une punition spéciale.
Puis d'ailleurs, à Québec, cet endroit-là, il faut y faire attention, le fameux boulevard Champlain. Encore la semaine passée, deux automobilistes qui se sont fait prendre respectivement à 149 puis 151 km/h. Le boulevard, non, tu peux rouler là-dessus.
Je connais bien, là, mais oui, c'est une belle ligne droite pour clencher, là, mais c'est parce qu'il y a le fleuve juste à côté, puis des fois, ça fait que c'est glissant.
Non, pendant longtemps, il y a eu une limite de 90, voire 100 km/h là-dessus. Là. Ça fait juste 8 ans. Ça fait seulement 9 ans que la limite a été, été dropée à 60.
OK, OK.
Mais à 90 à certaines zones, versus 151, t'es dans ce qu'on appelle le grand excès de vitesse. Le grand excès de vitesse, c'est pas juste un ticket.
C'est criminel, je pense. Hein? Ça tombe-tu dans le criminel?
Écoute,
répondez-nous dans les commentaires, quelqu'un le sait, je suis certain.
Ouais, puis écoute, moi, quand je l'ai eu, parce que ça donne que moi, j'ai été chanceux, roulé à une centaine de kilomètres heure, mais alors qu'ils avaient baissé à 60, c'est ça. Donc, je me suis arrêté, donne les papiers, puis... Je m'en sacrais un peu, puis je leur donne mon ticket que je m'en aille, tu sais. Puis là, c'est quand le monsieur a commencé à me dire, vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas remarqué que la limite a été changée. Je vois peut-être, pas grave, tu donnes-moi l'étiquette, moi le payer. Là. Il dit parce que ça, c'est un grand excès de vitesse, M. Champagne. Puis là, tu te rappelles, t'entends ça, mais dans les films, tu sais.
Ou aux nouvelles, puis pas dans des bonnes nouvelles.
Puis c'est jamais des bonnes. Fait que là, il est en train de m'expliquer que, tu sais, en vertu de la loi, normalement, je devrais remiser le véhicule 30 jours, vous enlever votre permis 7, puis là, Et là, moi, je me vois, tu sais.
À pied?
À pied? Non, c'est pas, moi, c'est pour que le choix à pied, je m'en
sers. Endetté?
Non. Mon épouse est enceinte.
Oh.
Ah oui, moi, il faut... Finalement, ils ont regardé mon dossier de conduite, puis ils n'avaient jamais entendu parler de moi. Là. je suis normalement quelqu'un qui suit les stops, les lumières, tout, tout, tout.
C'était vraiment un conducteur responsable.
Oui. Il m'a lancé des fleurs, là, Chris, oui. Je suis un conducteur responsable, normalement, puis là, ben, pour de jugement, comme je disais en début d'émission. Et finalement, je m'en suis tiré avec un ticket quand même glissement salé, là, mais j'ai pu repartir avec l'automobile. Mais moi, je me voyais rentrer à la maison, la walk of shame, tu sais. Chérie, les échographies, tu vas y aller en taxi?
Ouais, tu vas la coucher en étobus. Ah, c'est, ouais, c'est su été assez honteux.
Si des fois les gens de Québec vous roulez sur le boulevard Champlain, soyez prudents.
Écoute, j'ai aussi une histoire de conducteur épouvantable. Puis je pense que honnêtement, malheureusement, je bats la tienne. C'est pire. Il y a une infirmière qui marchait en bordure de la rue, qui a été fauchée par un chauffard dans l'article. Moi, je dirais une petite cave qui devrait aller crever en prison. Mais bon, on a choisi chauffard. Le gars était vraiment pressé à 4h20 du matin. Pourquoi? Parce qu'il trouvait pas un McDo ouvert. Fait qu'il clenchait pour essayer de pogner un autre McDo avant que ça ferme. Il a roulé jusqu'à 145 km/h sur le pont Champlain. C'est 80, hein, sur le pont Champlain. Puis, deux minutes après avoir quitté le McDo du 10-30, parce qu'il fallait pas trouver une chose ouvert, s'est retrouvé sur son chemin, le chemin du trou de cul, cette infirmière-là, sur la rue Boulevard de Rome, à la hauteur de la rue Lautrec. Il chauffait à 90 km/h, puis ça, c'est 50 km/h dans ce coin-là. Puis il l'a fauché. Mais tu sais, genre, fauché solide. Elle est morte sur le coup. Aucune chance, l'infirmière, là. Elle est décédée à Brossard parce que lui, il fallait qu'il se trouve un McDo ouvert à cette heure-là. Tu sais, il n'y a pas de temps à perdre. Puis plutôt que de s'arrêter puis de faire face à la musique, prendre ses responsabilités, il a décidé de se sauver. Puis il s'est pas sauvé tranquillement, non. Lui, il a passé par des rues qui étaient à 30 km/h, puis là, il roulait à 130 km/h dans ces rues-là pour se sauver du meurtre qu'il venait de commettre. Parce que moi, j'appelle ça un meurtre. Là, c'est pas je suis pas en train
chat, c'est un chat, puis un meurtre, c'est un meurtre.
Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le bon terme légal? Je m'en calisse. Je parle pas en termes légaux. Je suis pas un avocat, là. Mais il a tué quelqu'un par une négligence épouvantable pour une raison stupide. Je peux comprendre, mettons, quelqu'un qui va dépasser la vitesse permise parce qu'il s'en va à l'hôpital avec, je sais pas, quelqu'un de blessé puis sa vie est en danger ou quelque chose. Je peux comprendre. Mettez hasard, comme on appelle les quatre flashers, puis quelqu'un qui va rouler un peu plus vite, je peux comprendre qu'il va rouler un peu plus vite si c'est vraiment une urgence, là.
Une urgence, ça existe.
Ça existe. Mais trouver un McDo ouvert, c'est pas une urgence valable. Il s'est sauvé, puis ils l'ont retrouvé parce qu'ils ont trouvé des morceaux de char, parce qu'il a tellement frappé fort qu'évidemment, ça a brisé le véhicule. Puis ils ont trouvé des morceaux de son véhicule. Puis il y avait une pièce de la calandre sur lesquelles il y avait un numéro de série qui correspondait évidemment au véhicule du fou. Et puis, le lendemain, ils l'ont retrouvé. Ils ont saisi le véhicule. La police de Longueuil là, a réussi à le retracer comme ça, là.
La minute, là. L'histoire du McDo là-dedans, là. C'est lui qui l'a dit?
J'imagine que oui, parce que...
Fait que ça veut dire qu'il pensait se dédouaner de ses actes en disant oui, mais je me cherche un McDo.
Non, peut-être pas, mais en fait, c'est que en analysant son... premièrement, en regardant ses photos sur son cellulaire, puis en analysant son cellulaire, ils ont pu, déterminer de la vitesse à laquelle il roulait et de déterminer son itinéraire aussi. Fait que, regarde, je pense que c'est, je pense pas qu'il l'ait dit. C'est probablement juste une simple déduction du fait que, d'après les informations dans le cellulaire, de traçage, tout ça, ben, on s'est rendu compte qu'il est allé dans 5 McDo. Fait que je pense qu'il était à la chasse au McDo, hein? Tu sais, 5 McDo différents. Ah, oh, fuck, c'est fermé ici. Ah, oh, peut-être que l'autre est pas fermé. Oh, clenche dans le fond. À prendre des risques stupides. Puis, tu sais, c'est plus juste des risques, là. Il les a...
Les risques ont été accomplis.
Les risques, c'est ça. Les risques ont donné ce que ça devait donner. Puis, il a tué une femme innocente qui est une infirmière. Mais, qu'elle soit infirmière ou non, je veux dire, il a tué quelqu'un d'innocent qui faisait juste traverser la rue. Puis, lui, ben écoute, il arrivait à trois fois...
Il a risque calculé, mais il est terriblement mauvais en maths.
Ouais. Ça fait dur en maudit. Fait que il était. Le pire, c'est qu'ils l'ont ils l'ont retrouvé alors qu'il était au parc des Cascades à Rawdon. Il chillait avec ses chums. Le lendemain d'avoir tué quelqu'un avec son char, t'as les chillé avec ses chums. C'est là qu'ils ont saisi le téléphone, puis c'est là qu'ils ont eu les informations qui leur ont permis d'établir la chronologie de sa soirée, les lieux visités, puis les vitesses de déplacement. Fait que de rouler à 145 d'un McDo à l'autre, je pense que ça trahit pas mal ce qu'il faisait, là. Puis il y a aussi des photos, tu sais, que... Puis aussi, tu sais, quelqu'un aurait pu dire, mon cellulaire était resté dans mon char, mais je me suis fait voler mon char, puis... Ben non, c'est parce qu'il y a aussi des photos de lui avec un gros chapeau de cow-boy au volant de son char le jour même, puis quand ils ont trouvé le char, le chapeau est encore là, tu sais, c'est... Florilège de preuves. Malheureusement, par exemple, ça se peut que les preuves obtenues par le cellulaire ne soient pas admises en cours parce que il a été saisi sans mandat. Mais je m'étonnerais qu'ils
soient assez pour sans ça de le poignet. En tout cas, souhaitons.
Ouais, ça m'étonnerait qu'ils s'en tirent. José Luis ou José Luis Raymond, je sais pas comment prononcer son nom, là, comment il décide de le prononcer, mais moi on veut l'appeler trou de cul Raymond. Il est responsable de la mort d'une personne innocente qui essayait juste de traverser la rue. OK, oh, j'ai des sujets, là, j'embarquerai pas là-dedans, l'avortement, je peux en parler peut-être demain, mais tu sais, juste rapidement, en Ohio, aujourd'hui, on procède à un vote qui... On veut protéger le droit à l'avortement en l'inscrivant dans la Constitution. Mais... on n'est pas certain que ça passe parce qu'évidemment aux États-Unis, il y a beaucoup de bigots religieux qui sont contre l'avortement, mais il y a eu un dossier quand même qui pourrait influencer le vote, c'est-à-dire que depuis l'arrêt de Roe versus Wade depuis que la Cour suprême a cassé Roe versus Wade, ça c'est ce qui garantissait le droit fédéral à l'avortement. Depuis que c'était cassé, c'est les États qui légifèrent comme ils le veulent, ouais, là-dedans. Il y a des États qui ont restreint le droit à l'avortement, il y en a d'autres qui l'ont renforcé. En Ohio, on dit que plusieurs votes ont systématiquement été remportés par les partisans du droit à l'IVG. Mais pas en Ohio, mais je veux dire, aux États-Unis, dans plusieurs des États, il y en a plusieurs des États qui étaient républicains qui quand même ont réussi à garder des droits d'avortement. C'est-à-dire, oui, on vote républicain, mais on n'est pas nécessairement d'accord avec le fait d'interdire ça. Par contre, en Ohio, c'était pas le cas, d'après ce que j'ai pu lire. Il y avait une loi qui était entrée en vigueur après la décision de la Cour suprême. En Ohio, la Cour... c'est mêlant de la façon que je l'ai dit. Après la décision de la Cour suprême fédérale, en Ohio, on a fait une loi qui bannissait la plupart des avortements, même en cas de viol et d'inceste, dès qu'un battement de cœur peut être détecté. Ça veut dire vers 6 semaines. Puis le problème, c'est que souvent, à 6 semaines, la femme sait même pas qu'elle est enceinte encore.
Enceinte.
Fait que ça rendait presque impossible la plupart des avortements. Puis là, cette loi-là est en suspens. Puis c'est ça qui va peut-être favoriser les choses aujourd'hui. Cette loi-là est en suspens parce qu'il y a eu un cas épouvantable. D'une fille, une fillette de 10 ans qui s'est retrouvée enceinte après un viol. Elle est obligée de quitter l'Ohio pour aller se faire avorter en Indiana. Puis ça a choqué beaucoup. Fait qu'on ça se pourrait que ce cas-là particulier influence le vote et on espère que, justement, que les partisans du droit à l'avortement remportent la victoire lors de ce vote-là aujourd'hui en Ohio. Et évidemment, c'est scruté à la grandeur du pays. Parce que c'est beaucoup d'États vont pouvoir s'inspirer de ça. Fait qu'on espère que le dénouement de ça sera heureux pour le droit des femmes. Puis j'aimerais ça que ce soit la bonne nouvelle puis vous annoncer qu'ils ont gagné. Mais c'est pas terminé encore. Ça vote depuis ce matin. Puis ça vote beaucoup, là. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, dans la noirceur totale, il y a des gens qui faisaient la file. Et il y a des gens qui ont voté par anticipation déjà. Fait que... on va surveiller ça de près du côté des autres États américains. Puis ça pourrait donner du gaz à un camp comme à l'autre. Ça pourrait mettre du vent dans les voiles d'un camp comme de l'autre. Mais... en tout cas, moi, juste cette histoire-là, je peux pas croire qu'il y en a qui vont... Tu sais, qui ont vécu ça dans les nouvelles, là, la petite fille de 10 ans qui est obligée d'aller dans un autre État se faire avorter. Je peux pas croire que les gens de l'Ohio vont être... vont pas démordre de leur bigoterie religieuse. Mais l'histoire nous apprend que la raison n'a pas cours aux États-Unis parce que la foi prend toute la place dans le cerveau des Américains. Puis ça les empêche de réfléchir, d'être objectifs et d'avoir des valeurs morales qui ont de l'allure. Je peux pas finir le show là-dessus. C'est bien trop déprimant. Tiens, savais-tu que l'argent contrefait, ça existe encore, Alex?
Oui.
Ah, as-tu déjà eu ça dans les mains? As-tu déjà vu ça dans ta vie? Non. Moi, j'en ai eu dans les mains. Il y a quelqu'un qui a essayé de me convaincre de lui acheter des 20 piastres à 10 piastres chaque.
Ouais. Tu sais, c'est un indice, là.
Hein?
Tout de suite en partant, il a anguille sur roche.
Ah non, mais il me l'a dit que c'était des faux, là.
Oh oui.
J'étais très conscient que c'était des faux, puis il me le disait. Écoute, okay. Je travaillais comme plongeur dans une résidence pour personnes âgées. Et puis l'autre plongeur, il disait, hey, tu fais une pause de cash, là. T'sais, donne-moi 100 piastres, je te donne 200 piastres de faux 20 piastres. Tu payes avec ça, personne ne voit rien aller. Ouais, mais c'est parce que... paye pas n'importe où en partant, là. Si tu payes... un va pas à la banque avec ça, là. Et dans beaucoup de commerces, surtout lorsqu'il y a des espèces d'épidémies de ça, il y avait des petites lampes bleues qui permettaient de voir des petits graphiques cachés. L'argent canadien est très difficile à contrefaire. L'argent américain, non, parce qu'ils sont encore avec leur même petit bout de papier primitif, là. Eux autres, ils rient de notre argent et disent que c'est de l'argent de Monopoly. Mais Colin, t'essaieras de le contrefaire. Puis tu sais, nos billets sont tous en espèces de petits plastique indestructible. Il y a un paquet de caractères de filigrane caché. C'est super évolué. Notre monnaie est super moderne. Eux autres, ils en rient parce qu'elle a toutes sortes de couleurs. Mais Colin, eux autres, c'est toute la même couleur. C'est toutes des bouts de papier faciles à contrefaire. Si bien que il y a à peu près juste nos pièces de monnaie qu'on est capable de contrefaire ici. En fait, capable d'utiliser ici, parce que c'est pas contrefait ici. Il y a un Sorellois, d'ailleurs, qui s'est fait pogner. Il a acheté de la fausse monnaie, puis il l'a introduit au Canada. Écoute, il y avait 12 049 pièces de 2$ canadiens qui venaient de Chine. Des faux 2$ canadiens. Mais tu sais, encore là, tu sais, c'est une pièce de monnaie, ça peut avoir l'air vrai, là. C'est peut-être pas le même poids, parce que c'est pas le même... Ben, tu sais, si tu regardes avec une loupe, je sais pas, ou le contour. Mais écoute, il a sûrement réussi à en passer pas mal, mais...
Les 2$, là, c'est parce que, tu sais...
C'est long avant de faire de l'argent, là. Fais pas un paiement à cette maison en 2$, là, tu sais.
Juste aller faire le plein d'essence, tu sais. T'arrives avec ta barouette...
Pile, ben, tu fais des rouleaux, tu sais. Il s'est fait pogner. Puis, il y avait de l'argent en billets aussi. Mais pas des billets canadiens, là. Il y avait 91,50 piastres américains. Parce que l'argent américain étant plus simple, plus primitif, était plus facile à contrefaire. Parce que c'est comme des bouts de papier, là, en coton, je sais pas quoi. Mais il y a pas beaucoup de détails qui permettent de s'assurer de son authenticité, contrairement à l'argent canadien. Fait que, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que notre argent, il est bien dur à imiter tellement que on essaye juste avec la monnaie, les pièces de monnaie en métal. Et on préfère utiliser des pièces, des billets de banque contrefaits américains parce que les nôtres sont impossibles à contrefaire. Fait que, tiens, la bonne nouvelle, c'est que notre argent, on n'a pas gros, mais asti, il sent la coche!
Il sent bon.
Il sent bon.
Ah! Pogne des nouveaux billets de vin, là. Watley, là.
Ouais.
Ensemble.
Puis ça sent
bon. L'érable.
Ah, arrête, là. Ils disent ça, mais ça marche-tu? Je vais l'essayer.
Tu vas l'essayer.
C'est drôle qu'on parle de l'odeur de l'argent parce que hier, je racontais d'où venait l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » puis ça venait d'une taxe d'urine que les Romains devaient payer tous les matins. Il fallait que toute la famille pisse dans le genre puis écoute, ça s'en va. C'était récolté comme l'eau d'érable dans un gros tonneau. On vidait ça de maison en maison. On récoltait l'urine pour utiliser l'ammoniaque puis qui est contenu dans l'urine. Puis... lorsque l'empereur que là, je sais que ceux qui nous ont écoutés hier vous réentendez la même histoire, mais je la fais pour toi et pour ceux qui n'étaient pas là hier. L'empereur qui a mis cette taxe-là sur pied se faisait ridiculiser et il aurait répondu « L'argent n'a pas d'odeur. » Fait que même si ça sent la pisse, regarde l'argent qui rentre dans un coffre, ferme ta gueule. Mets ça dans ta pipe, pis suce, comme disait le prédicateur dans sa dernière émission. Du jour du Seigneur. Je connaissais pas cette expression-là avant que le prédicateur la dise en onde, puis j'aime ça à dire, trop spécial. On va finir.
Ça passe super bien au souper.
Hein?
Ça passe super bien les soupers de famille. Ça. Mets ça dans ta pipe.
Oui, monsieur, ça passe. En tout cas, ça attire l'attention. OK, on va finir ça là-dessus. On se dit à demain. Demain, c'est mercredi pour un autre Express. Toujours à midi, soyez là. Vous êtes toujours au moins une bonne centaine au rendez-vous. On aime bien ça. Salut.
Merci tout le monde. Bye.